Donc, mes frères et sœurs, en ce dimanche où vous accueillez votre nouveau curé, où j'installe votre nouveau curé, le père Vincent Rabergeau, et que vous accueillez aussi Gaël Catalano, donc ils vont exercer la charge pastorale au milieu de vous, avec vous, en collaboration avec père Michel Patry, avec le chanoine Charles Dufay, le père Jean-Pierre Maillet, aussi avec la présence essentielle des diacres. Mais commençons par, comme il se doit, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu qui nous est donnée par l'Église en ce dimanche. Le passage de l'Évangile de saint Marc nous présente un tournant dans le ministère de Jésus. Jésus a enseigné les foules, il a guéri les malades, on parle de lui. Les foules devaient parler de lui. Alors surgit la question de son identité. Qui est cet homme qui fait de tels miracles? J'ai pensé que ça devait beaucoup parler dans les chaumières. Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais tout le monde avait un avis sur la question, j'imagine. Je voudrais insister sur trois éléments fondamentaux de ce passage de l'Évangile. Donc tout d'abord, l'identité de Jésus, de fait. Un chemin faisant, Jésus interroge ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Les foules ont une opinion, et des opinions très diverses. Pour certains, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, ou un grand prophète qui serait ressuscité des morts. Il en va de même aujourd'hui. Beaucoup de nos contemporains ne savent pas vraiment qui est Jésus, ils ont une opinion très diverse, entre ceux qui le prennent pour un extraterrestre, ou pour un grand homme, ce qu'il est d'ailleurs. Alors la question de Jésus va se préciser. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Donc la question s'adresse à ses disciples, à ceux qui sont avec lui tous les jours, qui lui sont proches. Ce n'est plus une question théorique. Pour les disciples, comme pour nous aujourd'hui, c'est une question au fond radicale. Vous qui marchez avec moi, qui me connaissez, mais me connaissez-vous vraiment? Quelle est la nature de la relation avec moi? Et que dites-vous de moi aux autres? La réponse que nous faisons à cette question, en réalité, dépend toute notre vie. Car vous le savez, la foi n'est pas l'adhésion à des idées ou à une éthique ou à une doctrine, c'est la rencontre et la relation avec Jésus. Donc permettez-moi une première invitation. Prenez ou prenons les moyens de découvrir qui est Jésus vraiment, car nous n'avons jamais fini de découvrir et comprendre qui il est. Jésus ne se réduit pas aux sentiments que nous en avons. Je vous cite Benoît XVI qui s'adresse aux jeunes, mais enfin, la foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. La foi est une relation avec la personne de Jésus. Prenez les moyens de le connaître vraiment par la lecture de l'Écriture, par une véritable connaissance du catéchisme. Ne vous contentez pas uniquement d'un sentiment religieux qui monte et qui descend selon l'ambiance ou un vague souvenir de votre catéchisme, de votre enfance, pour ceux qui en ont eu. Prenez les moyens de vivre avec lui, d'être avec lui, même si pour cela, il faut changer nos manières de vivre. L'autre aspect, c'est le chemin de la passion et de la croix. À la question de Jésus, Pierre va répondre par une confession de foi magnifique. Hein, tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le Messie, celui qui est annoncé par toute l'Écriture, l'Ancien Testament, et que nous attendons pour délivrer le peuple. Pierre fait une bonne réponse, mais savait-il vraiment ce qu'il disait ? Il peut en aller de même pour nous. Nous proclamons avec ferveur et générosité la foi que nous avons reçue de l'Église. Nous pouvons donner les bonnes réponses, mais nous n'avons sans doute pas encore pris toute la mesure de ce que nous proclamons. Dans l'Évangile, Jésus, à la réponse de Pierre, commence à enseigner. Et Jésus va donner un contenu très différent de ce que Pierre mettait sous le mot Christ et Messie. Pour la première fois, Jésus commence à enseigner que le Fils de l'homme devrait souffrir beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit tué, et après qu'il ressuscite. Alors Pierre prend Jésus à part et lui fait de vifs reproches. J'imagine la scène. Il ne comprend pas, il ne peut admettre que le Messie doive passer par la croix et l'échec. Et à ce moment-là, il fait le jeu du démon. Il veut détourner Jésus de la croix. Et la réaction de Jésus est extrêmement forte. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus révèle que le chemin qu'il prend et qu'il va prendre est celui de l'humilité, de la vulnérabilité, de la passion et de la croix pour donner la vie au monde. Pierre ne comprend pas que la méthode de Dieu est celle du grain de blé jeté en terre. Et s'il meurt, s'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il n'a pas compris encore que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Vous savez, je pense à la réponse que fait Jésus à Pilate au moment de la passion, quand Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Et Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Alors rangez vos épées. Ou rangeons nos épées. Jésus veut conduire ses disciples et les apôtres et nous-mêmes au cœur de la mission qui est la sienne, à la profondeur de sa charité qui se révèle et s'accomplit dans la croix. Autre point, suivre Jésus. Il s'agit de suivre Jésus. C'est alors que Jésus appelle, dit-on, les foules de ses disciples, et nous-mêmes donc, si nous voulons le suivre. Il faut... Que faut-il faire? Si quelqu'un veut marcher à ma suite... Il s'agit bien de marcher à la suite de Jésus, le suivre, et suivre quelqu'un, vous le savez, c'est que lui est devant, d'accord, et nous sommes derrière. C'est aller là où il va. Et où va Jésus? Il va à l'extrême de la charité. Ce n'est plus chercher tout seul son chemin. C'est faire don de sa propre volonté pour l'adapter à celle de Jésus. Il s'agit d'entrer dans le projet de Dieu. Et Dieu sait mieux que nous ce qui est bon. Il n'est pas question d'auto-réalisation de soi, ni de succès, ni de construire une vie agréable, ni de se trouver des admirateurs ou des partisans, mais de manifester la charité de Dieu. Le véritable sujet d'intérêt est le bien de nos frères et sœurs. Et nous savons tous que sur ce chemin, nous avons tous du travail à faire. Parfois, cela est contraire à nos désirs propres. À se laisser faire par la grâce de Dieu, et on s'aperçoit petit à petit de l'insignifiance progressive du moi, et nous devenons libres. À quel avantage, dit Jésus encore, en effet, un homme a-t-il à conquérir le monde entier s'il se perd lui-même ? Je suis conscient que de tels propos sont peu audibles dans la culture d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est l'exigence évangélique. C'est le chemin de la joie et de la liberté. Alors aujourd'hui, j'installe votre nouveau curé. Alors je tiens d'abord à remercier de tout cœur. Merci Vincent, merci Gaël, et merci chacun des prêtres et des ministres qui ont accepté d'abord de répondre à l'appel du Christ. Merci de votre disponibilité au service de la mission à la suite de ceux qui vous ont précédé. Et je tiens à vous redire, chacun, c'est tout simple, c'est mon estime et ma confiance. Sachez-le. Alors que dire en ce jour à un curé alors qu'il prend cette charge d'une nouvelle ou d'une communauté chrétienne? Alors, il y aurait beaucoup à dire. Alors, j'ai fait le choix très simple d'insister sur trois points qui marquent profondément l'identité d'un prêtre. C'est simple, c'est la prière assidue, la prédication et la charité pastorale. C'est dans la prière, prier, il s'agit de l'union familière avec le Christ, où chaque jour on se reçoit de Dieu. La vie d'un pasteur se nourrit de cette familiarité avec le Christ. Alors le premier, entre guillemets, travail du pasteur, c'est de prier pour son peuple, pour le peuple qui lui est confié. Le jour de l'ordination, l'évêque demande à celui qui est ordonné: voulez-vous remplir avec moi, voulez-vous implorer avec moi, pardon, la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant assidu à la charge de la prière. Un autre point, c'est la prédication. Non pas d'abord l'annonce d'une doctrine complexe, mais l'annonce joyeuse du salut, du Christ mort et ressuscité pour nous sauver. Je pense aux propos du pape François dans sa lettre aux jeunes, quand il dit les trois choses qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut sans cesse répéter. Vous les connaissez? Vous les connaissez? Les trois choses qu'il faut sans cesse répéter, c'est: Dieu t'aime, Jésus te sauve, et il vit, il est vivant. Donc nous pouvons vivre et le rencontrer aujourd'hui. Enfin, la charité pastorale, paître le troupeau, il s'agit de manifester la charité du bon pasteur qu'est Jésus. Pas d'abord d'animer un groupe ou d'organiser un système, mais c'est le souci des personnes, connaître les brebis et les faire grandir, en n'oubliant jamais que Jésus, le seul vrai berger, le devient en devenant l'agneau immolé. Donc il ne s'agit pas d'être un leader, mais un bon berger, ou un agneau immolé, ce qui est à peu près la même chose. Alors à vous, communauté chrétienne de ces paroisses, alors je me suis demandé qu'est-ce que j'allais vous dire. Alors, d'abord, vous accueillez votre nouveau curé, alors puis aussi Gaël. Alors accueillez-les comme des frères, des pères et des amis. Vous allez vite découvrir leurs limites. C'est peut-être déjà fait. On est très doué pour voir les limites des gens, c'est étonnant. Ceci étant dit, je vous rappelle qu'ils vont aussi très vite voir les vôtres. Ça marche dans les deux sens. C'est pas grave, vous savez, d'avoir des limites. C'est même sans doute un bien, puisque ça permet à Dieu d'agir. Alors, ne parlez pas dans les conversations de table le dimanche, pas plus des prêtres que des autres, des limites. Réjouissons-nous seulement du don de Dieu. Alors, je me permets simplement de vous rappeler deux petites choses, que la seule raison d'être de l'Église, c'est l'annonce du salut en Jésus. C'est la mission, la seule raison d'être de nos organisations ecclésiales, qui ne seront jamais parfaites, c'est de proposer et de permettre à tous de rencontrer Jésus qui nous révèle l'amour et la miséricorde de Dieu. Le défi est le même toujours, de toutes les époques. Alors on me dit que l'époque est difficile. Oui, complexe, angoissante. Enfin, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Le défi, c'est d'annoncer l'éternelle nouveauté du salut dans le monde tel qu'il est. Être témoin de la joie et de l'espérance, non d'abord par les discours, mais à travers de nos relations qui doivent être elles-mêmes imbibées, traversées par cette nouveauté de l'espérance. Le monde a soif de connaître non pas nos problèmes ecclésiaux, mais le feu que Jésus est venu apporter sur la terre. Et c'est seulement si nous sommes devenus contemporains avec le Christ que ce feu est allumé en nous et que l'Évangile annoncé touche le cœur de nos contemporains. Vous le savez, et ça sera mon dernier mot, la première, condition de l'annonce, c'est le rayonnement de la charité entre nous et à l'égard de tous. Vous avez entendu comme moi la seconde lecture tirée de la lettre de Saint Jacques. Là, je reprends un mot de Saint Paul, mais qui résume cela. La foi agit par la charité. C'est-à-dire que le seul moyen de vérification de notre attachement au Christ, c'est la charité concrète, effective et quotidienne. Nous avons un chemin sans cesse à faire. Sur ce domaine, nous avons de la marge encore. Je pense aussi aux propos de Benoît XVI, une Eucharistie qui ne se termine pas par des actes de charité concrètes et tronqués. Alors, à cette nouvelle étape de la vie paroissiale, demandons au Seigneur d'être traversé par la joie du salut et une augmentation de la charité et sans doute une simplification du cœur.